Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Chant visuel, là, Sylvie, je ne sais pas si... Je te nuis, là, si tu ne te gênes pas de venir ici. On va avoir beaucoup de versets, donc si vous trouvez que vous êtes loin pour lire, là, en fil d'enseignement, vous ne vous gênez pas pour avancer. En m'en venant, en voiture, il y avait notre ami Paul Oud, que j'écoute bien, là, d'habitude le samedi, dimanche, là, les dimanches, les week-ends de Paul Oud. Puis Paul a commencé en disant, il y a eu un mot qui mondialement a été sur toutes les lèvres. Alors, on est à l'approche de l'Halloween, il y a des mots qui font peur, mais cette semaine, il y a eu un mot qu'on a entendu tout le temps parler, puis qui était une calamité, une catastrophe présente. Et là, il a dit, « Et ce mot est... » Et là, pour faire mon bond devant Sylvie, avant que Paul dise le mot, j'ai dit « inflation ». Et là, une seconde après, il a dit « inflation ». Et c'est vrai que c'était le mot, le sujet, quand j'écoutais la radio en travaillant cette semaine, le coût de l'indice à la consommation était de 5%. Les gens, d'une façon concrète, voyaient l'augmentation du prix. Et à la radio, là, c'était vraiment des gens qui appelaient puis qui disaient, « Moi, je gagne 28 $ de l'heure, puis j'arrive pas dans mon budget, puis ça coûte de plus en plus cher. » Il y avait vraiment un discours... alarmiste et aussi un discours là profond. Donc, c'était le sujet. Et ce qui était merveilleux, c'est que moi, j'étais en train de préparer mon message sur Proverbe. On avait quel sujet? L'argent, cette semaine, qu'on va voir. Quand on parle de ça, des situations financières, juste une petite précision, la situation financière varie grandement d'une personne à l'autre, d'une famille à l'autre. Donc, on veut, dans tout ce qu'on dit, c'est pas pour juger, condamner des gens. La situation varie d'une personne à l'autre. Donc, moi, quand j'entendais ça, que des gens qui gagnent 28$ de l'heure, tu sais, je me sentais pas interpellé. Puis jusqu'à maintenant, j'ai pas vu dans ce qui me concerne, des augmentations très grandes qui fait que hey, c'est la catastrophe, mais on veut être sensible aux gens qui, eux, vivent des situations difficiles. Donc, dans ce qu'on dit, là, c'est pas pour... on veut voir les bons principes de la parole de Dieu, mais on veut pas être en train de juger. Ce qui était drôle, c'est que dans la même émission, il y avait une heure sur les finances, et tout de suite après, il y avait le sujet... du souffleur à feuilles, que c'était de plus en plus populaire, puis il demandait, est-ce que vous en avez un souffleur à feuilles? Puis oui, mon voisin en a un, puis il l'utilise le samedi matin à 8h, puis ça, j'aime moins ça, mais écoute, ça montrait que d'un côté, il y a l'inflation, il y a la difficulté d'arriver financièrement, mais d'un autre côté, tu sais, un autre gadget, une autre chose que... qui s'ajoute à toutes les choses qu'on a absolument besoin. Personnellement, je crois qu'il n'y a aucune autre chose, sujet, qui envahit autant notre vie quotidienne que l'argent. Quand on y pense, hein, puis j'aimais bien ta présentation qui allait dans le même sens, on se doit d'acheter, de vendre, de prévoir, de budgéter, de calculer. Puis tout ça, là, ça coûte cher, hein? Ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Et ça peut nous amener à nous inquiéter, ça peut empoisonner notre vie. C'est normal de s'occuper de notre argent, hein, parce que si on ne s'occupe pas de notre argent, les autres vont s'occuper de notre argent. Puis là, on va être vraiment dans le trouble, on va s'inquiéter encore plus. On dit, il y a un bon dicton que j'ai toujours retenu, c'est que l'argent est un bon serviteur, mais il est un mauvais maître. Donc, de prendre le contrôle en s'appuyant sur les principes de la parole de Dieu face à l'argent, c'est vraiment un plus, c'est une bénédiction dans la vie quand l'argent, c'est pas un maître qui te contrôle, c'est t'es pas à la merci de la tyrannie de l'argent, mais que tu as pris le contrôle de cet argent-là. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un livre, comme on parlait avec Stéphane il y a quelques instants, un livre qui a été écrit il y a 3000 ans, le livre des Proverbes, qu'on peut l'appliquer encore aujourd'hui, puis que c'est pertinent, que c'est cohérent. Oui, les circonstances de ce qui était un pauvre dans l'Ancien Testament, c'est tout à fait différent d'un pauvre qui est au Québec, hein? Même un pauvre qui est ici au Québec, puis juste aux États-Unis, dans certains États où il n'y a pas de mesures sociales, le pauvre est totalement différent. Donc, on va aller voir principalement dans le livre des Proverbes qu'est-ce qui nous est dit. Prochaine image, s'il te plaît. Oui. L'origine du pauvre. Est-ce que vous êtes capable de voir un petit peu? Vous avez des bons yeux? Sinon, n'hésitez pas là à bouger. Donc, je vais lire les quelques versets sur d'où vient le pauvre. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui a fait l'un et l'autre. Le pauvre et l'oppresseur, hein, l'oppresseur dans, c'est le riche, là. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent. C'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Attention à notre attitude face aux pauvres, hein. L'Éternel a fait les deux, dans le sens que l'Éternel, qui est souverain, permet qu'il y ait des gens qui en aient plus. L'Éternel, c'est pas son but, mais il permet qu'il y ait des injustices qui fait que des gens en ont moins. Donc, on a besoin, chacun d'entre nous, d'avoir un peu d'humilité, puis un peu de reconnaissance face à Dieu de notre aisance financière. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était très, très, très économe, là. Quand j'étais jeune, à l'âge de 15 ans, avant avoir commencé, j'avais déjà $1,000, $2,000 dans mon compte de banque. Je me souviens qu'à l'âge de 22 ans, j'avais $16,000 dans mon compte de banque, là. Ça veut pas dire que j'étais meilleur qu'un autre. J'étais peut-être insécure, puis j'avais vécu des choses. Donc, faisons attention de pas juger, de pas s'élever, de dire, oh, regarde, moi, je m'occupe bien de mes affaires, puis j'en ai pas de problème financier, je comprends pas pourquoi t'en as. Ce soit face au couple, l'éducation des enfants, quand nous, ça va bien dans un domaine, c'est facile de dire, moi, regarde, je fais ce que Dieu me demande, puis tout va bien, t'as juste à faire ce que Dieu demande. C'est pas si simple que ça. D'où vient la richesse? Un petit verset que vous n'avez pas. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, c'est Dieu qui bénit, puis des fois, ça se fait tout seul. Ne dénigrons pas ceux qui ont moins que nous, puis ne nous glorifions pas de notre stabilité, de notre sécurité. On ne connaît pas l'histoire des gens. Hein? Je regarde dans ma famille, que ce soit les parents à Sylvie ou mes parents, on n'a jamais eu besoin de les aider. Au contraire, quand on faisait l'achat d'une maison. Il y avait quelques milliers de dollars qui venaient pour la mise de fonds à nos fêtes, à des occasions. On reçoit toujours des bons montants. Fait qu'on dit, hey, on est une famille que d'avoir de l'aide de nos parents, puis qu'on n'a jamais eu besoin de les aider, c'est eux qui nous aident. C'est dans un contexte. Donc, l'argent, quand tu prends de l'avance, puis quand ça va bien, c'est bien facile de garder ton avance, puis de toujours faire en sorte que ça aille de mieux en mieux. Prochaine image. Les limites de la richesse. Les limites de la richesse. Je le lis parce que vous ne devez pas le voir, là. Mais les versets sont là, c'est ce qui compte. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, dans ses pensées, c'est une haute muraille. La richesse n'assure pas la stabilité et la sécurité financière. Donc, tu as de l'argent, là, mais ça ne veut pas dire que tu vas toujours l'avoir. Tu as de l'argent, mais mets pas ta confiance là, de dire « Hey, ma vie est en sécurité, je regarde mon compte de banque sur mon écran d'ordinateur, puis j'ai tant, puis ah, oh, ça va bien, repose-toi, mon âme, tu sais, réjouis-toi. » Non, l'argent a des limites. Prochaine image. Hein? L'argent se fait des ailes. J'aime tellement ce beau petit verset-là que vous avez, 23:5. Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. On connaît l'expression, hein? Riche un jour, riche. Oh, vous pouvez le dire, vous avez le droit, même si c'est pas toujours. On pense que parce qu'on a de l'argent maintenant, que notre situation est bonne, qu'on va toujours avoir de l'argent. Mais c'est pas vrai. Ecclésiaste 5:13, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Hein, on se permet d'aller dans Ecclésiaste parce que qui écrit Proverbes? C'est Salomon. Puis Ecclésiaste, qui l'a écrit? Ben c'est Salomon aussi. Donc, c'est le même auteur là, qui a écrit des pensées, des proverbes, des dictons sur les finances. Je pense à des joueurs, j'aime beaucoup le sport professionnel, hockey, baseball. C'est intéressant de voir qu'il y a des joueurs qu'on a vus qui ont été des vedettes, qui ont gagné des dizaines de millions de dollars. Et on peut dire au fil de leur carrière qu'ils se rendent même dans la centaine de millions de dollars. Et quand ils ont 45, 50 ans, on entend la grosse nouvelle. Qu'est-ce qui arrive avec nos vedettes, nos idoles? Ils font faillite. Ils n'ont plus une scène. On dit, hey, écoute, j'aurais gagné le 1/100 de ce qu'ils ont gagné, puis j'aurais été riche, là, j'aurais été dans l'abondance. Donc, l'argent, c'est pas parce que tu en as eu que tu es riche, que tu vas en avoir. La parole nous dit qu'il arrive des événements fâcheux, que l'argent, elle a des ailes, puis qu'elle s'en va. L'argent a beaucoup plus de limites que juste dire qu'on a, puis un jour, on n'aura pas. Qu'est-ce que l'argent peut faire devant la maladie? Quand le médecin dit, écoute, t'as beau avoir 10, 15 millions, tu peux me le donner, mais il n'y a rien qu'on peut faire. Tu peux juste prendre les médicaments pour soulager ton mal. Souvent, ils vont être à la merci des charlatans qui vont dire, donne-moi quelques millions, puis je vais te guérir. Mais donc, l'argent ne peut rien face à la maladie, face à la santé, à la capacité d'être en forme puis de faire de l'exercice. J'ai monté quelques montagnes cet été puis de voir ces dizaines, ces centaines de personnes-là avec toi qui, de tout âge, de toute situation, qui s'en vont à l'Acropole des Draveurs, qui ont monté 800 mètres, qui sont devant un panorama. C'est toute une richesse de dire, hey, moi, à chaque fois que je le fais, là, j'ai 60 ans, je me pince tout le temps pendant que je monte, là, puis je suis essoufflé, je dis, hey, merci Seigneur qu'à 60 ans, je suis encore capable de monter, de profiter, d'être dans la nature, puis c'est bon pour notre corps, c'est bon pour notre esprit, puis de voir qu'il y a tant de gens qui en profitent. Est-ce que l'argent peut procurer ça? Non, le billet d'entrée, ça coûte 9$, puis à partir du fait, du moment que tu as payé 9$, tu peux aller tout partout. Donc, nos capacités physiques, le fait de marcher, de courir, nos capacités intellectuelles, le fait de réfléchir, d'avoir encore une bonne lucidité, une bonne pensée. On pense les relations familiales, hein? Dans le temps de Noël, on va être ensemble avec nos enfants, avec des gens qu'on aime, des amis, des frères et sœurs, puis de voir l'ambiance qu'il y a, puis de dire, « Hey, je peux pas payer pour ça, tu sais. » Il y avait un film de Noël qui payait des millions pour dire, « Je veux emprunter une famille pour Noël, là. » C'était un peu très cocasse. L'amour, le fait d'être aimé de quelqu'un, puis que toi, tu peux aimer cette personne-là, puis que tu donnes et que tu reçois. Si l'argent vient jouer dans ça, bien déjà, c'est foutu. Hein? On pense que les amis, d'avoir des bons amis, le fait d'être riche, très riche, d'avoir beaucoup d'argent, c'est tout un handicap pour les vraies amitiés, parce que tu peux toujours te demander, est-ce que cette personne-là, c'est vraiment moi qu'elle apprécie comme ami ou c'est un peu les avantages que je peux procurer. Le plaisir de faire des voyages, des belles expériences. Oui, vous allez dire, ben on peut aller plus loin si on a un plus gros billet d'avion qui coûte plus cher, là. Mais souvent, là, avec peu d'argent, hein, il y a des gens qui n'ont pas un sou puis qui vont faire le tour de la planète, qui vivent des belles expériences. Donc, les limites de l'argent, spécialement le cœur, là, notre cœur, pas l'organe, mais notre âme, notre esprit, le cœur, lui, il mange pas ça de l'argent. C'est pas sa nourriture. Il se nourrit d'amour, d'amitié, de toutes sortes de choses, mais l'argent, il en mange pas, lui, ça l'intéresse pas. Et quelle est la plus grande limite de l'argent? Il y en a une, j'ai pas dit encore. La mort. L'argent ne peut rien faire face à la mort. Elle ne peut pas l'empêcher. Et une fois qu'une personne est décédée, peu importe comment elle avait dans son compte de banque des centaines de millions, des milliards, qu'est-ce que ça lui donne une fois qu'elle est morte? Absolument rien. Et c'est là quand Jésus, la vraie richesse, c'est « Est-ce que tu as reçu le don gratuit de la vie éternelle. » Donc, les limites de l'argent, il y en a énormément. Prochaine image. On veut voir, et ça en parle beaucoup dans le livre des Proverbes, des désavantages d'être pauvre. Quels sont les désavantages? Premier verset, 18-23. « Le pauvre parle en suppliant, et le riche répond avec dureté. » 19, 4 à 7, « La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? » Il lui adresse des paroles suppliantes, hein? Mais ils disparaissent. Si on va un peu plus loin, là, en faisant de l'ironie, hein? Hey, quand les... C'est dérangeant d'être avec des pauvres, hein? Pourquoi? Parce que quand ils sont là, puis ils sont pauvres, puis ils souffrent, puis qu'est-ce qu'on se sent obligé de faire? On se sent obligé de les aider, tu sais, puis des fois, on n'a pas le goût, tu sais, on n'a pas le goût. La vie est joyeuse, elle est belle, puis si on est en contact avec les pauvres, ben tu sais, ça nous porte à avoir de la compassion, puis de... le pauvre peut vraiment être malmené. Hein? Il souffre d'un manque de considération, de respect. Le pauvre est rejeté. Il n'y a pas beaucoup d'amis. Et au Québec, on est vraiment dans une situation où il y a un filet social, où on assure un minimum. Et c'est vraiment une bénédiction. Mais pensez, le 3000 ans en Israël, pensez dans plusieurs pays présentement, pensez, on pense juste aux États-Unis où il n'y a pas de programmes sociaux, là, que tu perds ta maison, tu perds ta job, tu perds ton programme d'assurance maladie. Beaucoup de familles se retrouvent à la rue avec deux enfants, des sans-abri. Donc, il y a tout un désavantage à être pauvre. C'est décourageant et la vie peut être vraiment difficile. Quand c'est déjà difficile pour comme ça, on ne veut pas en ajouter. Et un piège pour le pauvre, c'est de vouloir jouer aux riches. Et ça s'applique pleinement à nous au Québec en 2021. 12:9. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Hein? Imaginez comment le serviteur, comment il était pauvre, parce que celui dans la société qui était pauvre, qui n'avait pas beaucoup de moyens, il avait le moyen de se payer un serviteur pour l'aider dans les travaux. Fait à celui qui est pauvre, et l'Ecclésiaste Salomon dit, « Hey, si tu es pauvre puis tu n'as pas beaucoup de ressources, ben au moins utilise tes ressources correctement. Aie un serviteur au lieu de te priver d'un serviteur, tu fais tout toi-même parce que tu veux paraître plus riche. » 13:7. « Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. » Donc ici, ça veut dire que quand tes ressources sont limitées, assure-toi de ne pas te priver de l'essentiel. Fais pas des choix qui sont tellement mauvais en voulant impressionner. Hein? Tel fait le riche et n'a rien du tout. Imagine-toi quelqu'un qui est pauvre, mais il ne veut pas le montrer, il ne veut pas, quand il va au restaurant, de dire, écoute, oui, je suis prêt à aller au restaurant, mais moi et ma femme, là, ça va nous coûter un 100, 150 piastres si on va à ce restaurant-là. Qu'est-ce que tu dirais si, oh non, non, on y va, puis le vin, la plus belle bouteille, oh oui, nous autres, ça va bien, puis, hey, mais tu n'as pas une scène, là. Vive selon ses moyens, c'est vraiment une grande sagesse. Et en voulant impressionner les gens, le pauvre qui fait semblant d'être riche, il augmente sa douleur, il augmente sa détresse et sa pauvreté. C'est pas facile d'être pauvre, et pauvre, c'est toujours relatif, hein? Mais c'est plus facile quand on commence par accepter notre condition, qu'on vit selon nos moyens et qu'après ça, on compte sur la bénédiction de Dieu en améliorant notre situation petit à petit. Donc ça, c'est les désavantages d'être pauvre. On va voir les désavantages d'être riche. Ben voyons donc, Richard, il n'y a pas de désavantages. À être riche, il y a juste des avantages. Donne-moi-les l'argent, moi, puis tu vas voir que je ne serai pas malheureux avec ça. On va voir ce que nous dit Proverbe. 13:8. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Avec son argent, il va sauver sa vie parce que ici, c'est pas si pire au Québec, mais quand on pense dans le monde au nombre d'enlèvements, de meurtres de personnes riches, de prises d'otages, des attaques dans les propriétés pour se faire voler avec les coups de feu, la nécessité d'avoir de la protection, de payer du monde cher pour qu'ils puissent protéger nos acquis, Le pauvre lui dit, moi, il n'y a personne qui veut m'attaquer. Hein. Il y avait des vols d'auto de luxe dans notre coin. Il y a Boucherville, là, une dizaine en quelques jours. Et c'était toutes des autos, là, 100 000 et plus. Moi, ma petite Toyota Corolla 2010, il n'y a personne qui veut la voler. Pourtant, je trouve qu'elle paraît bien encore. Mais je suis pas attaqué, il n'y a pas de problème. Ecclésiaste 5:10. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. J'aime cette expression-là. Hein? Quand il y a beaucoup d'argent quelque part, là, quand il y a un gros tas et que le monde sait qu'il y a un gros tas, tout le monde veut aller piger dans le tas. Tout le monde veut hey, est-ce que tu m'aiderais ou hey, on va essayer d'y envoler. Donc, quand tu as beaucoup d'argent, il y a beaucoup de monde qui veulent ton argent. Ecclésiaste 5:9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Ça, c'est un autre problème. Hein? Celui qui a de l'argent, il en veut toujours plus, puis il veut que ses affaires en veut toujours aller un petit peu plus loin. Hein? Ils ont demandé à Rockefeller, je pense, avec combien d'argent là tu serais satisfait. Avec combien, là, en millions, Rockefeller, ça fait longtemps dans le passé, là, ils ont dit combien de millions, là, et sa réponse, ça a été quoi? Un peu plus. Toujours un peu plus. Jamais de satisfaction. Ecclésiaste 5:11, le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Quand tu as beaucoup d'argent, quand tu as beaucoup de responsabilités, tu te couches le soir, là, puis tu dors pas tranquille. Hein? Tu as des fardeaux, des soucis. Il y a Louis Garneau, hein, qui avait une belle compagnie, puis qui a encore une belle compagnie, mais qui a passé à travers des mauvais coups du sort, puis il a écrit un livre, puis il donnait des témoignages comment hey, sa vie a été difficile. Il a tout fait parce qu'il avait à cœur ses employés, mais il s'est cassé la tête, ce gars-là. Là. Il a eu des tourments, des épreuves, puis il s'est battu pendant plusieurs années pour remettre sa compagnie sur pied. Hey, c'est pas une vie belle et tranquille, là. C'est vraiment très difficile. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a vraiment beaucoup de désavantages à être riche. Des rôdeurs, hein, des vautours qui sont là autour de toi, qui veulent prendre ce que tu as. Des soucis constants pour protéger ta richesse. Le riche aussi est esclave de l'argent, bien des fois, il en veut toujours plus. Gérer des grandes entreprises, souvent, c'est pesant. Moi, en écrivant ça, je pensais, être riche, c'est comme mesurer 6 pieds 10 pouces. C'est pratique quand tu joues au basket ou encore au tennis. Hein. Il y a plusieurs joueurs de tennis avec leurs services qui sont bons juste parce qu'ils mesurent 6 pieds 10 pouces. Mais dans la vie quotidienne, quand tu veux t'habiller, quand tu as des problèmes de santé, quand tu veux prendre l'avion, oh, c'est pas toujours commode, c'est pas si le fun que ça. Autre sujet, on passe au prochain. Le danger des dettes. Hein? Oh, là, ça devient concret. Là, ça, du temps de Salomon ou à notre époque, là, on est pas mal sur le même niveau. Ça s'applique directement. Attention, danger. 22:7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Prochain verset. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessus toi? Quelle belle image, hein? Tu prends des engagements, tu dis, je vais payer ça à paiement. Oh, mets ça sur le paiement, mets ça sur la carte, mets ça, puis pourquoi voudrais-tu qu'on t'enlève ton lit, un besoin tellement de base? Et on veut garder, la parole de Dieu dit, garde ta liberté, n'emprunte pas. Ne te porte pas non plus garant pour un autre. Sois pas en train de prendre des dettes, de signer, de dire, oh, ça va bien aller, il n'y aura pas de problème. Les dettes, c'est vraiment un aspect de nos vies où la parole de Dieu met une grosse alarme qui crie, qui dit non, non. 6, 1 à 5, un peu long, mais je vous ai résumé là. Si tu as donné un chèque en blanc à ton prochain, déchire-le, c'est ça que ça dit. Bon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Ça veut dire que si tu es dans les dettes, tu es dans le trouble. Puis si tu ne réalises pas tout de suite que tu es dans le trouble, si tu as des dettes, bien, tu vas l'être encore plus parce que quand ça va tout te tomber dessus, ce ne sera pas facile. Au Québec, moi, dans les publicités, à la télévision, à la radio, j'entends beaucoup Fortin, tel nom de compagnie. Venez nous voir, vous avez des dettes, on va tout vous arranger ça, puis vous allez repartir à zéro, puis... On veut comme banaliser de dire, accumule 100 000, 200 000, 300 000, puis quand là, toutes tes cartes vont être pleines, viens nous voir, puis nous autres, on va te régler ça, puis tu vas pouvoir avoir une maison. Hey, c'est pas si facile que ça. Hein? Heureusement, on veut qu'il y ait des moyens d'aider ceux qui sont dans le piège, dans le maras, dans le sable mouvant des dettes, mais... Le processus là pour revenir, ça prend des années, puis tu as des contraintes pour le restant de ta vie. Donc, faisons attention. On ne veut pas devenir l'esclave. On parle des dettes. Ouais, mais Richard, c'est quoi une dette? C'est quand que j'ai des dettes? J'ai un paiement d'auto, là. Tu sais, il est gros, mais tu sais, je suis capable de le payer. J'ai-tu une dette? J'aime cette petite définition-là qui est incomplète, là, qui touche juste un aspect. Une dette, c'est une obligation financière que l'on ne peut rencontrer. Si tu as ton budget, puis tu dis ça, c'est mon paiement de maison. Ça, c'est mon paiement d'auto. Ça, c'est mon paiement pour ma télévision. Ça, c'est mes autres paiements pour mes meubles puis toutes les gugus que j'ai achetés à tant de versements. Ça, ça fait un gros, gros total, mais dans mon budget, je suis capable de le payer. Puis, je ne suis pas en train de mettre ces paiements-là sur la carte de crédit de notre côté. Donc, ça, c'est pas à proprement dit une dette. Est-ce que ça veut dire que c'est toutes des... dépenses légitimes qui nous aident. Non, non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais quand tu as des obligations que tu dois rencontrer à chaque mois et tu n'es pas capable de les payer, là, c'est une dette. Quand on n'est pas capable de payer l'hypothèque, les taxes, télévision, tout ce qui est échelonné sur 48 mois, oui, c'est une dette. Tu peux dire, ah, moi, j'ai pas de dette parce que c'est sur ma carte de crédit. Oui, c'est une dette. C'est une dette où tu payes 20 % annuellement d'intérêt. Tu es en train d'hypothéquer ton avenir financier, ta santé financière parce que tu es en train de payer plus. Hein? Quand on a des CPG, là, on va à la banque et on dit, place-moi ça pour un an. Hey, on a 0,5, hein, on a 1/2 d'1%, mais là, tu payes 20% à ta banque parce que tu n'es pas capable de rembourser. Donc, la carte de crédit, hein, souvent, c'est la drogue des personnes qui ont des problèmes endettés. C'est c'est leur cocaïne, c'est là que, écoute, ils sont addicts, ils ne peuvent pas se priver, se passer d'une carte de crédit. Et le nombre incroyable, j'ai essayé de faire des recherches, mais je pense qu'il y a plus qu'un Québécois sur deux qui a une carte de crédit qui ne rembourse pas le solde au complet à chaque mois. Et juste à partir du moment où, une fois, on n'est pas capable de rembourser le montant du mois au complet parce qu'on n'a pas l'argent, déjà, l'alarme, les lumières rouges devraient allumer, on est déjà dans le trouble. Avoir des dettes, c'est s'appauvrir et se priver d'une éventuelle aisance financière. Quand tu as des dettes, tu penses toujours à l'argent. Et on ne veut pas toujours penser à l'argent. À qui on veut penser? On veut penser à Jésus, à être en auto, puis méditer sur la parole. On veut penser à notre femme, nos enfants. On veut penser aux belles activités qui s'en viennent. Dire, Seigneur, la vie est belle. Non, je n'ai pas besoin de penser à l'argent. Je n'ai pas de problème d'argent. Quand on a des dettes, on est à la merci. Et la parole de Dieu, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau, nous enseigne de se dégager des dettes, de ne pas s'habituer à vivre. Le problème des dettes, c'est qu'on ne prend pas le temps d'accumuler avant pour dépenser après. On dépense avant, puis on dit, jusqu'à maintenant dans ma vie, je n'ai pas été capable d'avoir un style de vie où je peux me permettre de m'acheter tel objet, de faire telle activité, mais je vais le faire tout de suite en pensant que plus tard, l'argent va rentrer. C'est vraiment une utopie, là. C'est de croire aux nuages, là. C'est dans les airs, ces choses-là. Et oui, il faut attendre un peu pour faire certaines choses. On accumule avant et on profite après. On vient de parler, oui, prochaine, elle est là. On vient de parler d'accumuler avant. On veut voir un gros sujet, là, un gros bloc, où ça nous parle de gagner et de dépenser notre argent. Donc, on commence avec gagner. Hey, c'est tellement beau ce que dit le livre des Proverbes. Proverbes 13, 11. La richesse mal acquise diminue. Mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Donc ici, ça parle d'accumuler petit à petit. Donc ça parle d'une richesse qui est acquise avec le temps, tranquillement. Quand j'étais jeune, hein, on parlait de la valeur de l'argent. Lui, il ne connaît pas ça, la valeur de l'argent. L'argent qu'on a acquis en travaillant a une valeur. Et cette valeur-là, c'est l'effort qu'on a mis à la gagner. Et normalement, plus on a mis des gros efforts, puis on dit, « Hey, la Bible est vraie qu'on va gagner notre pain à la sueur de notre front. » Puis Seigneur, tu as fait en sorte que des fois, il faut travailler dur, puis il faut se lever de bonne heure, il faut faire des efforts. Bien, je suis content de l'effort que j'ai pu mettre, puis je vais en faire une bonne utilisation. On a l'exemple d'un héritage qu'un enfant, un jeune adolescent, un jeune adulte qui a eu, il n'a pas travaillé pour, qu'est-ce qu'il risque de faire avec tout le dilapidé, tout le brûlé, l'argent il brûle entre les mains parce qu'il n'a pas travaillé pour. 14:23. Tout travail procure de l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Le salaire d'un bon travail. Hein? Quand tu travailles, c'est comme ça que Dieu il veut bénir. Donc, accumuler petit, peu à peu. Oui, mais ça prend du temps. Oui, c'est bon que ça prenne du temps. Parce que ça va durer longtemps aussi. Prochaine image. Après accumuler petit à petit, la parole de Dieu nous dit d'accumuler, mais juste assez. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Que j'aime ce verset-là. Vaut mieux une main pleine que deux mains pleines. Ben, tu sais, pourquoi pas deux mains pleines avec repos? C'est parfois difficile de se donner des limites. Quand on a des belles opportunités de gagner de l'argent, quand on peut en gagner beaucoup, puis on se dit, hey, c'est comme l'expression biblique, hein, quand la manne est là, c'est le temps de la ramasser, parce que si tu attends plus tard dans la journée, il n'y en aura plus. Donc, écoute, c'est là, je ne peux pas m'empêcher, mais ça va me demander beaucoup d'efforts, mais je vais y aller. Dans ce temps-là, on y va pour deux mains pleines, encore un peu, encore un an, encore 2 ans, encore 10 ans à faire ça, puis je vais vraiment avoir les deux mains pleines, que là, je vais vraiment pouvoir me donner du repos. Hein. Je vais ralentir plus tard, mais pas maintenant. La parole de Dieu, par ce verset-là, nous parle d'un certain contentement. D'être content de ce qu'on a, d'être content de ce qui est raisonnable. Il va toujours avoir des gens plus riches que nous. Hein? On peut dire que ce n'est pas juste. Il y en a plus que moi, mais tu regardes, oh, il y a des gens plus pauvres que toi. Et c'est pas drôle pour eux. Donc, d'être capable de réaliser que les plus riches que toi, ils ont des problèmes que toi, tu n'as pas. Puis ils n'ont peut-être pas le même style de vie que toi. J'adore les paroles de Gilles Valiquette qui dit « On n'a pas le temps ou on n'a pas d'argent. Hein? » Moi, dans ma tête, je chante souvent ça. « On n'a pas le temps ou on n'a pas d'argent. » Là, je réalise, hey, « Merci Seigneur, j'ai du temps pour dépenser, pour profiter de l'argent que tu as permis que je gagne, que tu m'as procuré. » Quand on travaille trop, on n'a pas le temps. Ou on ne travaille pas, parce qu'on ne travaille pas, bien, on n'a pas d'argent. Et le Seigneur, ce qu'il veut dans sa sagesse, c'est qu'on ait le temps et l'argent. Donc, on a besoin que la sagesse de Dieu, qu'on sache comment l'appliquer dans notre vie, puis de dire, Seigneur, je veux une belle main pleine, merci pour ton abondance, avec des belles choses de la vie où je peux me reposer, je ne suis pas en train d'être sur le bord de la crise cardiaque parce que je travaille trop. Et c'est cette sécurité financière-là que Dieu bénit, celle qui vient d'un travail persévérant, d'actes responsables et de priorités bibliques. Prochaine image. Dépenser de l'argent. Hein? On avait vu gagner et dépenser. On a vu accumuler, maintenant on veut voir dépenser de l'argent. Ecclésiaste 5:9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Donc, il dit, c'est encore là une vanité. Donc, ça, c'est une chose, quand on pense à dépenser de l'argent, vraiment triste, navrant, ça nous brise le cœur des gens qui sont riches à centaines de milliers de dollars, à millions, et qui vivent comme des pauvres qui n'en profitent pas. Hein, il y a des histoires aux États-Unis d'itinérants qui cachaient de l'argent, puis il y avait 1 million de dollars, mais ils vivaient dans la rue, puis la vie difficile, mais une maladie de vouloir profiter. Donc, par rapport à dépenser de l'argent, c'est correct de profiter de l'argent. Hein, Dieu dit qu'il nous bénit de toute grâce afin qu'on puisse en profiter. 21:20. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé les engloutit. Donc, l'insensé, qu'est-ce qu'il fait avec les richesses qu'il pourrait avoir? Il n'en fait pas une bonne utilisation. Hein. C'est un flambeur. Il brûle l'argent. Il ne prend pas soin de ce qu'il a. L'argent lui brûle entre les mains. Prochaine image. Attention aux extrêmes. Hein? Et moi, je pense que je suis au milieu. Moi, je suis équilibré. Vous, vous êtes où? Vous vous situez où par rapport à... Vous êtes sûrement aussi au milieu. C'est parce que ceux qui sont plus dépensiers que vous, ils sont trop. Puis ceux qui sont plus économes que vous, bien, eux autres, ils sont trop économes. Êtes-vous d'accord avec ça? Moi, je pense ça. Moi, je pense que je suis équilibré, là. Je suis au milieu. C'est un plus dans la vie de pouvoir se situer, se connaître un peu face à l'utilisation de l'argent, face aux dépenses. Donc, on a besoin de se connaître. On a besoin d'écouter les gens qui nous font des petits commentaires, des gens de confiance qui nous disent « Écoute, sais-tu que tu as un peu une tendance à… » Ben non, moi, je suis équilibré, c'est au milieu. Donc, est-ce que… D'un côté, hein, on a celui qui n'a pas beaucoup d'argent, il n'en reste pas. Bien, lui, c'est un flambeur, un dépensier, un consommateur. Je ne sais pas quel autre terme vous pourriez mettre. Et de l'autre côté, on a celui qu'on peut dire, bien, lui, c'est un gratteux. T'sais. Lui, c'est un économe, là, il ne dépense pas une scène. Lui, il est dans la simplicité volontaire. Là, il ne dépense pas. Dans le couple, très important, hein? On est deux personnes et quand on se marie, on pense que l'autre pense comme nous, à tous les aspects, puis surtout au niveau financier. Dans le couple, c'est important de se parler, de se connaître et de développer une saine dynamique financière. Et si les deux, dans un couple, ils se marient, puis les deux sont gratteux, qu'est-ce qui va arriver? Si les deux ne dépensent pas une scène, puis qu'ils disent « Ah oui, non, on ne dépense pas ça, on fait attention, qu'est-ce qui va arriver? » Oui, ça va être correct côté financier, ils n'auront pas de problème, mais est-ce que la vie va être belle? Peut-être 30 ans plus tard, à leur 30e anniversaire, je dis, écoute, on a une couple de millions, mais écoute, on a vécu comme des mendiants, on s'est privé de tout, puis là, il y a plein de choses qu'on aurait aimé faire, qu'on n'a plus la santé, plus l'énergie. Si c'était à refaire, on se laisserait un petit peu aller lousse. Qu'est-ce qui arrive si il y en a deux qui voient, tu as une belle télé, ça fait 2 ans, mais là, il y en a une à 4 000 au Costco, puis elle est belle, puis les deux, hey, penses-tu que notre télé, elle est floue un peu, hein? Puis penses-tu qu'on devrait la changer? Bien, certains, j'y pensais, hey, on la met dans le panier, puis on amène ça. Hein? Imaginez que les deux sont comme ça sur les voyages, sur tout, puis... Let's go. Hey, t'as ta job, j'ai ma job. Tu continues à travailler. Moi aussi, écoute, notre banquier nous a dit qu'on pouvait faire des dépenses. Donc, rechercher l'équilibre, d'avoir une bonne dynamique, se connaître et savoir c'est quoi notre tendance. Moi, j'étais très, très, très économe et avec Sylvie, j'ai appris à me laisser lousse un peu. Sylvie, je ne veux pas dire qu'elle était dépensière, mais elle était beaucoup plus du côté de « Écoute, on a le moyen, on l'achète, on le prend. » Et je pense qu'on a fait un bon ajustement, puis on regarde où on est rendu, notre situation. Puis le fait qu'on ait été un peu à l'écoute de l'autre, tu sais, ça fait qu'on a bien bâti. Puis au fur et à mesure, notre niveau de vie s'est toujours amélioré. Je me souviendrai toujours, ça faisait 1 an qu'on avait notre maison à Shawinigan et le taux d'intérêt était de 14 % pour notre hypothèque. Et là, on a un beau retour du gouvernement, tu sais, en 90, de 4 000 $. Puis là, de dire à Sylvie, elle dit, « Hey, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, on a une maison neuve, mais tout est à faire. » J'ai dit, « Hey! » On va le placer à 14 %. Ah oui, on va le placer à 14 %. Oui, on va payer notre hypothèque. Tu sais. Sylvie avait été dessus. On a un beau 4 000, puis on paye notre hypothèque avec. Mais on avait fait ça, mais ça nous avait permis, 8 ans plus tard, on n'avait plus d'hypothèque. Donc là, on pouvait en profiter. Donc, besoin de se connaître. On va terminer rapidement. Prochaine. Dépenser de l'argent, hein? Quelques pensées. On connaît notre Pierre-Yves McSween national, hein? Avec son livre « En as-tu vraiment besoin? » Et dans une société de surconsommation, on a besoin de se parler et de dire « Écoute, là, j'ai-tu besoin de cette chose-là? Est-ce que je peux au moins attendre avant de l'acheter? » puis voir si dans un mois je la veux encore, puis si c'est encore utile. Il y a ce piège. Hein? Dans la vie, on va chercher un plaisir à plusieurs endroits. Et c'est dangereux de développer un plaisir à acheter. En plus, il était en spécial, il y avait une étiquette rouge. J'ai sauvé 30 % d'avoir le plaisir d'acheter un objet, mais je n'ai pas de plaisir à l'utiliser. Et je réalise que je le mets là, je l'ai au cas où, mais 10 ans plus tard, je m'en suis servi une ou deux fois, puis je me suis un peu forcé parce que... Donc, est-ce qu'on a plus de plaisir à acheter qu'à utiliser? Bien des fois, avant l'achat, on y pense tout le temps, on parle, hey, je veux l'acheter, on a besoin, puis une fois qu'on l'a, qu'est-ce qu'on fait avec cet objet-là? On l'oublie. Avant, on y pensait tout le temps, là, on l'oublie. Marie Kondo, hein, connue mondialement par rapport aux vêtements et aux objets, donnait cette directive-là, mais elle donne beaucoup de bonnes choses, là, mais j'en prends une en particulier, qui dit que quand tu regardes un vêtement, ou quand tu regardes un objet, tu le regardes, puis si cet objet-là, il ne te donne pas de joie, il ne te donne plus de joie, bien tu lui dis au revoir, tu t'en défais, puis tu dis merci pour la joie que ça m'a procuré. Donc, tu t'en départis, on le donne, hein, elle dit, on le laisse aller. J'ai eu de la joie à l'acheter, maintenant il ne me donne plus de joie, donc je m'en défais. Mais on tombe dans un cycle où on achète, puis on jette, on achète, puis on jette. Hein? C'est comme si le mot « acheter » « achète », hein, tu sais, on achète, puis on jette, puis les deux se confondent. C'est comme une roue qui tourne, puis une fois qu'on a donné du linge, qu'est-ce qui se passe dans nos tiroirs? On a de la place, on va en racheter d'autres. J'en ai plus un comme ça. D'autres approches, hein, qui dit que quand il y a un vêtement que tu n'as pas mis depuis 2 ans, qu'est-ce que tu fais avec? Tu t'en débarrasses, tu le donnes, parce que si tu ne l'as pas mis depuis 2 ans, ben tu ne le mettras pas de toute façon. On achète, on consomme, on fait des mauvais achats, puis on dit c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Là, par rapport au linge, hein, les dames, je sais ce que vous me dites. Hein, tu peux pas comprendre, tu n'es pas une femme. Nous, on aime ça acheter du linge, on aime ça sentir là, qu'on a un beau petit nouveau morceau qu'on met pour tel événement. Mais c'est pas seulement les dames. Hein. On pense aux hommes qui vont dans les quincailleries, Canadian Tire, etc. Ça fait du bien s'acheter une nouvelle bébelle, un nouvel outil, là, au cas où on aurait besoin. Il fait longtemps que je voulais l'avoir. Une société de surconsommation. On a juste besoin, pas de se priver de ce qu'on a besoin, juste de réfléchir. On a besoin d'avoir un équilibre dans notre style de vie. C'est quoi mes priorités? Est-ce que d'aller au restaurant quand ça me coûte 150$ parce que j'ai vécu une belle expérience, c'est là que je veux mettre mon argent? Bien, il n'y a pas de problème parce que c'est ça qui vous donne du plaisir. Vous avez travaillé fort pour votre argent. Puis, sauf que si vous avez le restaurant à 100-150$ pour un souper, bien, vous ne pouvez pas avoir les 10 autres choses. On a besoin d'établir des priorités. Des voyages, c'est tellement marquant, c'est tellement bon que, oui, on peut investir un bon montant, mais on ne peut pas tout avoir en même temps. On a besoin de comprendre que l'argent et les biens de consommation ne donnent pas le bonheur. Ils rendent la vie agréable et confortable. On a besoin de décider. Dernière image très importante qu'on retrouve même dans les proverbes. Tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celle qui arrose sera lui-même arrosée. Prochain verset, 19-17. « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Et 1 Timothée 6-18, « Recommande-leur, et dans le contexte, c'est aux riches, de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. » Dieu bénit l'homme généreux. Dieu se plaît de redonner à celui qui prend soin des autres. Et dans son Église, dans l'œuvre de Dieu, qu'il y ait une priorité, qu'il y ait une part qui soit donnée pour l'œuvre de Dieu, de dire, écoute, je ne fais pas juste répondre à tous mes besoins, puis quand j'arrive pour l'offrande, pour l'œuvre de Dieu, il n'y a pas d'argent. Le Seigneur dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, notre offrande, le fait qu'on ait des gérants, des administrateurs, des diverses grâces de Dieu. Donc, il y a vraiment une place pour que Dieu dise, écoute, tu veux, je te bénis, bien, mets les bonnes priorités à bonne place. Donne aussi pour l'avancement de mon œuvre. Donne pour soutenir les pasteurs, les églises, pour que le nom de Jésus soit donné. Donc, Dieu se plaît à donner à celui qui est généreux, à celui qui va en faire une bonne utilisation. On va terminer dans la prière. Seigneur Jésus, on ne peut faire autrement que te remercier, Seigneur, pour notre situation financière. Te remercier pour le pays, la province dans laquelle tu nous as placés, où tu prends soin de nous à travers les hôpitaux, les médecins, à travers les programmes de pension, de sécurité de vieillesse. Seigneur Jésus, tu es un Dieu qui nous bénit de toutes sortes de façons. Merci pour nos emplois qui permettent qu'on gagne de l'argent. Et Seigneur Jésus, on te prie que tu puisses nous donner ta pensée dans les choses financières, Seigneur. Donne-nous aussi de ne pas oublier l'offrande que tu dis que de riche libéralité, que ça t'est agréable, que ça te plaît, notre Dieu. Merci Jésus parce que tu es tellement bon envers nous que tu nous donnes beaucoup de liberté. Tu ne mets pas sur nous une contrainte de ne pas avoir d'argent, mais Seigneur, tu nous donnes cette liberté de bien l'utiliser. Seigneur Jésus, merci encore pour ta parole qui a été écrite il y a 3000 ans et qui est encore actuelle pour nous. Amen. Merci. Oh. Oui.